France Culture, il est midi et demi. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. À la veille de la mobilisation syndicale contre la loi travail, Emmanuel Macron déclare ne regretter absolument pas d'avoir évoqué vendredi à Athènes les fainéants qui s'opposent à sa politique de réforme. Nous l'entendrons ainsi que l'analyse d'Anne-Laure Chouin. À Londres, la Chambre des communes se prononce aujourd'hui pour la première fois sur le projet de loi gouvernementale qui va mettre fin à la suprématie du droit européen sur le droit britannique. Correspondance d'Antoine Gignot. Catalogne, 3 semaines du référendum d'autodétermination qui a été interdit par les institutions espagnoles. Les indépendantistes appellent à une grande manifestation à Barcelone à l'occasion de la fête nationale. On y retrouvera Sébastien Berriot. La province de Deir ez-Zor en Syrie, aux prises maintenant avec 2 offensives. Distincte qui vise à reprendre donc aux djihadistes les territoires qu'ils contrôlent dans l'est du pays. Analyse de Nabila Hamel. L'ouragan Irma est rétrogradé en catégorie 1. Un bilan fait état d'une 30aine de morts et des dégâts considérables. Des critiques s'élèvent sur la réaction de l'État face à la catastrophe. Le Premier ministre dit regretter ce matin une polémique politicienne par des responsables, je cite, alléchés par la souffrance. Le point de vue dans cette édition de Véronique Robérotte. L'invité de la séquence interview, Aurélien Taché, député République En Marche du Val-d'Oise. Et dans la dernière partie de la Grande Table, Olivier Gesbert.
De la libération à la liberté sexuelle. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la sexualité contemporaine à l'étude dans le dernier numéro de la revue Esprit. Les inquiétudes qu'elle suscite, les nouvelles normes du désir. On en parle avec nos deux invités, l'anthropologue Véronique Naoum-Graff et le sociologue Michel Bozon. Ils seront avec nous dans 25 minutes.
Journée test demain donc pour les opposants à la loi travail. La CGT recense plus de 180 manifestations, 4000 appels à la grève. La SNCF annonce ce matin des perturbations pour les RER en province, les trains de banlieue en région parisienne. Les métros, eux, devraient circuler normalement. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors c'est difficile à savoir, mais enfin on peut quand même se poser la question de savoir comment cette journée se présente.
Alors vous l'avez dit, 180 sites de mobilisation, 4000 appels à la grève annoncés par la CGT, qui sera rejointe par Solidaires et la FSU. Quant à FO, la CFDT et la CFE-CGC, si elles n'ont pas lancé d'appel à la mobilisation, tout indique que certains de leurs militants seront dans les cortèges, car le mot d'ordre a été élargi. Il ne concerne plus seulement les ordonnances sur la réforme du code du travail, mais aussi la diminution des contrats aidés, celle des APL, le gel de l'indice des fonctionnaires, bref, tous les sujets de mécontentement, passé ou à venir, et ils sont nombreux. Le gouvernement surveillera tout particulièrement la mobilisation des étudiants, dont plusieurs organisations se sont réunies ce matin pour s'organiser. L'UNEF, notamment, n'a pas digéré la baisse des APL et se prépare à manifester aussi contre la menace d'une future sélection à l'entrée de l'université. Le mouvement de demain a donc bien des chance de se transformer en mobilisation plus générale anti-Macron et anti-gouvernement, ce qui ne veut pas dire qu'il va obligatoirement rameuter les foules. La CGT dit l'envisager plutôt comme un premier round, le début d'une contestation de longue haleine, à l'image de ce qui s'était passé l'année dernière contre la loi El Khomri, une mobilisation qui, on le rappelle, n'avait pas fait reculer le gouvernement et dont on verra demain si elle a ou non émoussé la contestation.
Voilà, et on verra aussi si cette mobilisation est renforcée ou pas par les déclarations d'Emmanuel Macron à Athènes vendredi, qui a qualifié ceux qui s'opposent à sa réforme de fainéants, de cyniques ou d'extrêmes. Et le chef de l'État, qui est aujourd'hui en déplacement à Toulouse sur le thème du logement, déclare ce matin qu'il ne regrette absolument pas cette déclaration. Il affirme que, notamment sur ces 3 termes utilisés qu'il va maintenant expliciter. On l'écoute.
Je recommande à tout le monde d'écouter les discours. Les gens ont tort de vouloir déformer pour créer des fausses polémiques. Je n'ai jamais été dans l'invective, vous savez. J'aime la France et les Français. Et c'est toutes celles et ceux qui pensent qu'on ne doit pas bouger, en Europe comme en France. Mon discours était très clair. J'ai interpellé toutes celles et ceux qui, 15 ans plus tôt, avaient dit qu'en Europe ou en France, on pouvait ne pas bouger. Et qui, 15 ans plus tard, se réveillent avec le Brexit, la Pologne qui nous tourne le dos, une crise européenne et des difficultés françaises. Et donc je dis oui que celles et ceux qui pensent que nous pouvons ne rien faire, que nous avons ce luxe, que nous pouvons rester assis, se trompent profondément, que celles et ceux qui, avec cynisme, pensent qu'il vaut mieux construire son avenir ailleurs, se trompent, et que celles et ceux qui sont aux extrêmes et veulent diviser le pays se trompent.
Voilà. Vous regrettez l'emploi du mot fainéant ?
Absolument pas. On ne peut pas faire avancer notre pays si on ne dit pas les choses en vérité, mais il faut écouter complètement les discours et dans le détail.
Voilà qui est fait donc. Emmanuel Macron, c'était ce matin à Toulouse il y a quelques instants, Anne Lorchouin. Donc, est-ce que tout cela peut apaiser les tensions, les réactions, ou est-ce que ça pourrait aussi renforcer la mobilisation?
Eh bien, ça dépend de qui s'est senti visé. Les porte-parole de l'Élysée depuis ce matin expliquent que ces adjectifs visaient donc, comme vient de l'expliquer Emmanuel Macron, plus ou moins les hommes politiques qui ont précédé le président aux affaires et qui auraient sciemment refusé de réformer le pays par peur de faire des choix tranchés, allusion claire au roi fainéant et plus généralement toute la classe politique actuelle qui critique les réformes. Pas de mépris de classe, jure-t-on à l'Élysée, mais sans doute la phrase était-elle insuffisamment contextualisée parce que ce matin, l'ensemble des syndicats et des politiques qui s'apprêtent à défiler demain l'ont prise pour eux et s'en servent assez logiquement comme appel à la mobilisation.
Anne Lorchouin, merci. On salue l'invité de la séquence interview, Aurélien Taché. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes député de La République En Marche du Val-d'Oise. Une question d'abord, j'allais dire technique. Quand Emmanuel Macron tient des propos qui peuvent choquer éventuellement les opposants à sa réforme, est-ce que vous pensez qu'il le fait volontairement, que c'est stratégique, ou bien qu'il exprime simplement, sans plus de précaution, le fond de sa conception de la réforme?
Je pense qu'Emmanuel Macron fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il est dans un discours de vérité. Si on se rappelle un petit peu des débats qu'il y avait eu pendant la loi Macron, le ministre de l'économie qu'il était avait regretté que certains, alors même qu'il reconnaissait parfois en off que la réforme pouvait être importante sur certains sujets, refusent d'y apporter leur soutien à travers ce qu'on peut considérer comme étant une forme de paresse politique. Oui, c'est vrai. Il y a eu tout un tas de sujets sur lesquels nous n'avons pas fait de choix ces dernières années en France. C'est pour ça qu'on a un chômage qui est toujours à 10%. C'est pour ça qu'on a des PME qui sont toujours les plus petites d'Europe. C'est pour ça aussi qu'on a des loyers qui ne baissent pas qui sont toujours beaucoup trop élevés par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'une politique du logement intelligente. Ou c'est pour ça aussi qu'on a toujours reculé quand il fallait respecter nos engagements budgétaires et être crédible sur la scène européenne. Tout ça, c'est de la paresse politique. Emmanuel Macron continue donc de dire que lui, son choix, c'est de s'attaquer courageusement à ces sujets.
Oui, mais alors si tous les opposants sont paresseux, sont fainéants, cyniques ou extrêmes, est-ce que c'est pas une façon de délégitimer finalement toute critique ? Puisque ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas dans le bon chemin.
Moi, je ne sais pas s'il voulait parler de tous les opposants. Il pense à une certaine catégorie, effectivement, des hommes et des femmes politiques de ce pays qui ont pu exercer des responsabilités et ne pas faire les choix qui s'imposaient, ou en tout cas qui n'ont fait aucun choix même. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut parler de fainéants. En tout cas, je crois que c'est ce qu'il a voulu exprimer. Après, il y a des oppositions qui peuvent être légitimes. Il ne s'agit pas de disqualifier toute opposition. Je ne pense pas que ce soit ça dans son esprit.
Aurélien Taché, merci. On vous retrouve donc pour la séquence interview.
Midi 38, la suite de votre journal, Antoine Mercier. L'Europe entre construction et déconstruction, deux événements forts aujourd'hui à Barcelone et à Londres.
Oui, en Catalogne d'abord, les séparatistes veulent faire une démonstration de force cet après-midi à l'occasion de la fête nationale. Nous sommes à 3 semaines de ce référendum d'autodétermination. On en parle dans un instant avec Sébastien Berriot. Et à Londres, donc, également, se déroule une séance capitale au Parlement, puisque les députés se prononcent pour la première fois sur ce projet de loi gouvernemental qui va mettre fin à la suprématie du droit européen sur le droit britannique. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Alors, on peut peut-être dire aujourd'hui que le Royaume-Uni recouvre le principe de sa souveraineté, au moins juridique.
Oui, c'était l'une des promesses de campagne des pro-Brexit, mettre fin à la suprématie de la loi européenne, reprendre le contrôle. Eh bien, c'est le sens de ce texte, ce Great Repeal Bill, qui doit permettre, dans un premier temps, d'incorporer les 12 000 règlements communautaires de l'Europe dans le droit britannique, avant de pouvoir, dans un deuxième temps, les modifier. Et c'est cette modification des lois qui fait justement polémique au Parlement aujourd'hui, car le texte que les députés doivent valider donne également au gouvernement britannique la possibilité d'apporter des corrections, des changements à n'importe quel projet de loi sans passer par le Parlement. C'est une disposition qui est héritée d'Henri VIII et qui ressemble un peu aux ordonnances, au 49-3 français. L'opposition travailliste parle donc d'un texte digne d'Alice au pays des merveilles. La gauche s'inquiète d'une modification possible du droit du travail et de la législation sur l'environnement. Elle ne votera pas le texte, pas plus que les libéraux-démocrates et les écossais du SNP. Le gouvernement de Theresa May, qui n'a pas la majorité absolue, va donc devoir compter sur l'aide des unionistes nord-irlandais. Il devrait tout de même réussir à imposer ce Great Repeal Bill au forceps et malgré la fronde d'une partie des élus conservateurs qui refusent toujours que le pays quitte le marché unique.
Oui, merci beaucoup Antoine Gignot. À Londres, il y a quelques heures de ce vote, le ministre britannique chargé du Brexit, David Davis, répète que le Royaume-Uni risque de connaître une sortie chaotique de l'Union si les députés rejetait ce projet de loi d'abrogation des dispositions prises pour l'entrée du pays dans l'Union européenne. On passe maintenant à la situation en Catalogne. Nous sommes à 3 semaines de ce référendum d'autodétermination qui a été interdit par les autorités espagnoles. Les indépendantistes veulent donner aux célébrations de la fête nationale aujourd'hui une ampleur particulière et appellent donc la population à un grand rassemblement, une grande manifestation. Sébastien Berriot est pour nous sur place. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on entend déjà l'écho de ce défilé à venir. Il s'agit d'abord pour les indépendantistes de légitimer un référendum qui est jugé par Madrid inconstitutionnel.
Oui, effectivement, chaque année, la Diade est un moyen pour les indépendantistes de montrer de manière très concrète leur capacité de mobilisation dans la rue. Cette année, plus encore, c'est l'objectif, avoir une véritable démonstration de force dans les rues de Barcelone. Plus il y aura de monde tout à l'heure, plus la Generalitat de Catalogne et son président Carles Puigdemont pourront dire « Regardez, l'indépendance, c'est vraiment une revendication centrale chez nous et notre référendum, il est tout à fait légitime, contrairement à ce que dit le gouvernement espagnol. » Les organisateurs souhaiteraient dépasser le 1 million de manifestants. On verra ça cet après-midi. Très probable qu'on va assister dès ce soir à une bataille de chiffres avec Madrid, c'est comme ça chaque année à la Diade. Ce qu'on sait, c'est que près de 2000 bus sont attendus en provenance de toute la Catalogne. 360 000 personnes se sont déjà inscrites en ligne. Beaucoup de Catalans, d'ailleurs, ont commencé à arriver hein, sur place. Il y a des petites manifestations qui ont démarré ici et là autour de la place de Catalunya. Cette année, la Diade se fera sous la forme d'une croix humaine géante censée symboliser toutes les possibilités qui seront offertes au futur État catalan en cas de victoire du oui au référendum. Le président catalan qui entend évidemment tirer profit au maximum de cette journée de mobilisation pour plaider sa cause à l'échelle internationale. Avec son ministre des Affaires étrangères, il a organisé tout à l'heure une conférence de presse pour les journalistes étrangers présents à Barcelone. Il a rappelé que les indépendantistes veulent un processus totalement pacifique et que le rassemblement de cet après-midi sera pacifique, même si des incidents sont possibles entre les forces de l'ordre et certains groupuscules indépendantistes d'extrême gauche. La police, de toute façon, est déployée en grand nombre parce qu'on est aussi, Antoine, à moins d'un mois des attentats de Barcelone et de Cambrils.
Sébastien Berriot, merci beaucoup en direct de Barcelone.
En Syrie, la province de Deir el-Zor, riche en pétrole et frontalière de l'Irak, est actuellement le théâtre de deux offensives distinctes visant à reprendre aux djihadistes les territoires qu'ils contrôlent dans l'est du pays.
Voilà, alors donc il y a d'une part les forces du régime qui sont engagées dans l'ouest de la province, qui sont soutenues par l'aviation russe et qui sont parvenues cette semaine à briser le siège imposé depuis près de 3 ans maintenant par l'EI à 2 enclaves gouvernementales, donc de cette ville de Deir el-Zor. Et il y a d'autre part les forces démocratiques syriennes, FDS, c'est cette alliance de combattants kurdes et arabes soutenue cette fois par Washington, qui ont lancé donc une offensive samedi pour chasser l'État islamique des territoires sur la rive est de l'Euphrate. Nabil Hamel, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous aider à voir peut-être un peu plus clair sur cette situation très compliquée. Là, on voit bien que la reconquête du terrain occupé par l'État islamique jusqu'à présent risque de laisser face à face finalement deux frères ennemis, les uns soutenus par les Russes, les autres par les Américains. Est-ce qu'on peut s'acheminer, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura un arrangement politique in fine ?
Pour le moment, s'il y a deux forces, l'armée syrienne et la coalition arabo-turque des FDS qui avancent aujourd'hui dans la partie assiégée de Deir ez-Zor pour y déloger l'organisation État islamique, l'une et l'autre donnent l'impression d'avoir le même calendrier sans pour autant coordonner leurs opérations. Les forces du régime ont attaqué la ville par le sud-ouest, appuyées par l'aviation russe, ce qui leur a permis de reprendre le contrôle de l'aéroport et de champs pétroliers. Les FDS, elles, opèrent par le nord et contrôleraient depuis hier soir une colline qui fait face à Deir ez-Zor, à moins de 7 km de la rive est de l'Euphrate. La coalition arabo-kurde qui lutte contre les djihadistes comme elle l'a fait à Raqqa tient à préciser qu'il n'y a aucune coordination entre ces opérations militaires et celles de l'armée syrienne ou russe, mais elle ne cache pas qu'il existe ce qu'elle appelle une ligne de déconfliction, de désescalade pour éviter tout incident entre les multiples acteurs engagés sur le terrain. Donc, arrangement militaire plutôt que politique. Pour la suite, plus le pays se rapproche d'une victoire totale sur les djihadistes, plus il devient difficile d'en voir sa recomposition. Ce lundi, par exemple, des responsables tribaux de Deir ez-Zor, alliés au FDS, à la coalition arabo-kurde, vont annoncer la création d'un conseil civil pour administrer la ville. Cette province étant, vous le disiez, riche en pétrole et stratégiquement importante, comment Damas pourrait s'accommoder d'une telle initiative alors que le gouvernement syrien ambitionne de reprendre le territoire tranche par tranche? Ce sont les questions de l'après-victoire sur les djihadistes. L'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, les pose en ces termes. Est-ce que le gouvernement syrien sera prêt à négocier et ne pas simplement crier victoire? Est-ce que l'opposition sera capable d'être réaliste pour réaliser qu'elle n'a pas gagné la guerre? Voilà, on en est toujours sur ces interrogations.
Nabila Hamel, merci.
France Culture, midi 45. L'ouragan Irma continue de perdre en puissance. Il a été rétrogradé en catégorie 1 et deviendra une tempête tropicale dans les prochaines heures.
Et oui, donc c'est l'heure du bilan. En balayant les Antilles, il y a une trentaine de morts pour l'instant recensés. Il y a des dégâts en tout cas de toute évidence considérables. Les autorités locales qui n'ont pas encore pu évaluer dans le détail l'impact de ce passage. Demain, le chef de l'État sera sur place. Bonjour Véronique Rabérotte.
Bonjour.
Que va-t-il découvrir, le chef de l'État?
Alors après la sidération, l'action, disait en fin de semaine dernière le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, la présence sur place du président Macron incarnera cette action. Elle se matérialise seulement dans un paysage de ruines de quel côté que l'on regarde. 1500 militaires et forces de l'ordre à cette heure ont été dépêchés sur l'île. Elles sont à pied d'œuvre, ils seront bientôt 2000. Un navire doit accoster dans la journée avec du gros matériel, une grue de 5 tonnes qui permettra notamment de décharger des conteneurs de grande capacité. Les liaisons maritimes ont repris dès hier soir et l'île de Saint-Martin connaît bien désormais ce matin un balai ininterrompu d'hélicoptères et d'avions, 85 tonnes de nourriture transportées, 1 million de litres d'eau et plus de 2 tonnes de médicaments. L'hôpital de l'île de Saint-Martin, détruit à 70%, est à nouveau opérationnel. On estime à 300 le nombre de blessés plus ou moins graves. Parler de reconstruction peut paraître tout de même un peu présomptueux quand la population ces dernières 48 heures a manqué de tout, a dû se débrouiller, a eu peur de l'ouragan José qui devait frapper là aussi l'île après Irma et a craint pour sa sécurité à cause des pillages, des difficultés, des conditions extrêmement difficiles à supporter, ce qui pousse eh bien beaucoup d'habitants des Antilles françaises, de Saint-Martin, à vouloir partir pour ne plus revenir, aussi parce qu'ils ont tout perdu.
Ouais, il y a beaucoup de critiques aussi qui sont élevées sur la réaction de l'État à l'instant. Par exemple, André Chassaigne, qui est le chef de file des députés communistes, dénonce, je cite, de graves dysfonctionnements au ministère des Armées. Le Premier ministre, lui, dit ce matin regretter une polémique politicienne par des responsables, dit-il, alléché par la souffrance. Qu'est-ce qu'il y a, selon vous, dans l'acte d'accusation?
Il y a un manque d'anticipation de la part du gouvernement et une pause de 24 heures dans l'aide entre le passage d'Irma et celui attendu de l'ouragan José. Un positionnement français à comparer avec une intervention jugée à la hauteur dans la partie néerlandaise de l'île. Avant le passage d'Irma et a fortiori de l'ouragan José, le Premier ministre néerlandais s'est préoccupé de la situation sécuritaire de l'île. Des marines, des gendarmes, des policiers ont été prépositionnés sans attendre de savoir, comme la France, Irma serait finalement de force 3, 4 ou 5. Il n'est pas certain pour autant que la polémique sur ce manque d'anticipation aille très loin parce que beaucoup d'abord la jugent déplacée ce matin aussi, notamment le socialiste Benoît Hamon, parce qu'aussi le gouvernement, estimant à juste titre avoir eu à affronter une situation inédite, accepte, je cite, « volontiers la création d'une commission d'enquête parlementaire dont la conclusion pourrait être que la culture de prévention de la France reste très insuffisante ». Et là-dessus, tout le monde sera d'accord.
Merci Véronique Rabérotte. Un tout petit mot, Aurélien Taché, là-dessus, sur ces critiques qui sont faites.
Oui, qu'il faille renforcer nos moyens pour mieux prévenir ce type de catastrophe, c'est une évidence. Mais enfin, vraiment, gardons-nous effectivement de toute polémique politicienne. C'est plus de 1100 agents de l'État qui ont été déployés dans le week-end en renfort. C'est encore 2000 aujourd'hui, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Voilà, vraiment, l'État prend toutes ses responsabilités pour prévenir la gestion de cette crise, enfin les voilà. Conséquences de cette crise, pardon.
On revient vers vous dans un petit instant parce qu'on dit un mot de l'initiative de Radio France qui est le lancement de cette radio d'urgence qui est disponible donc sur les ondes 91.1. À Saint-Martin et sur Internet, on reçoit Étienne Guffroy, bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint en charge de l'offre éditoriale à Radio France. Bon, cette radio, un petit mot peut-être de présentation.
Eh bien, cette radio, elle tourne depuis précisément 16h30 hier après-midi. L'objectif de cette radio est d'abord de délivrer des messages, d'informer les populations, parce qu'on a bien vu qu'il y avait une difficulté à recevoir de l'information, que les populations étaient en demande. Et donc, on est sur du très, très, très pratique avec cette radio. Des informations météo, c'était une priorité hier. Après, les intempéries. Il fallait continuer à informer sur la situation. On était encore en alerte météo jaune hier, donc il fallait prévenir des pluies qui arrivaient, qui continuaient, qui pouvaient être denses. Et puis des informations sur la sécurité, sur la distribution des rations et de l'eau, sur l'état des réseaux, sur le rétablissement des liaisons commerciales, des messages sanitaires aussi, puisque il y a encore des difficultés à avoir de l'eau. Il y a des problèmes avec une usine de dessalement qui ne fonctionne pas. Donc prévenir bien les populations sur le risque de boire de l'eau, de la consommer s'il en coule au robinet. Donc cette radio émet en 3 langues, en français. D'abord, elle a émis en français dans un premier temps, et puis aujourd'hui, elle émet en créole, et puis en anglais. On s'adresse à l'ensemble des populations de Saint-Martin, principalement Saint-Martin pour l'instant, parce que c'est l'émetteur qui est debout et qui fonctionne, donc 91.1. Et puis, pour l'instant, l'émetteur de Saint-Barthélemy n'est pas encore en état, il est encore à terre. Et on fait tout pour, évidemment, les équipes de TDF qui vont travailler pour remettre en ordre et en état l'émetteur de Saint-Martin. Ont pu œuvrer pour qu'on démarre hier après-midi à 16h30 heure de Paris, 10h30 heure locale, pour s'importer encore un petit peu de travail.
Merci beaucoup Étienne Guffroy d'être venu dans cette édition. Vous parlez de cette radio d'urgence donc pour les îles concernées. On revient vers notre invité politique Aurélien Taché avec une question de Sophie Delpont.
Aurélien Taché, bonjour. Donc je reviens avec vous sur cette polémique autour des fainéants. N'y a-t-il pas, donc là, dans le discours d'Emmanuel Macron, qui n'en est pas son premier coup d'essai, hein, sur cette façon de dire que les Français détestent les réformes, il l'avait dit pendant la campagne, il l'a répété cet été à la fin du mois d'août, n'y a pas une notion en fait de radicaliser le discours et peut-être d'avoir finalement une façon de à la fois de décrédibiliser les opposants, mais aussi de dire finalement c'est pour ou contre la réforme en général?
Mais je crois pas que, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois pas qu'il radicalise son discours, je crois qu'il reste dans ce qui a fait aussi son succès, sa façon d'aborder les grands sujets avec les Français, c'est-à-dire des discours de vérité très clair. Enfin voilà, on ne va pas, parce que certaines réformes peuvent être difficiles, reculer à la première opposition de personnes qui en plus n'ont pas été élues, hein, voilà, même si pour certaines d'entre Parfois on peut se demander au regard des accusations en légitimité de notre projet. Donc non, il n'y a pas une volonté de radicaliser, il y a une volonté d'assumer ce qu'on veut faire et d'expliquer pourquoi on veut le faire. Et ça avait été déjà le cas dans la campagne, ce sera encore le cas maintenant que nous sommes aux responsabilités et je considère que c'est ce qu'on doit aux Français.
Comment il va le groupe En Marche à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas d'opposants là?
Le groupe En Marche va très bien. Encore une fois, tout le monde est fait bloc derrière les réformes qui sont aujourd'hui proposées par le gouvernement, parce qu'on sait qu'elles sont indispensables, qu'il faut trouver des solutions plus pérennes que les emplois aidés par exemple pour accompagner les gens durablement dans l'emploi, qu'il faut permettre à nos PME de se développer, qu'il faut trouver des solutions pour que les loyers baissent, et sur tous ces sujets le groupe En Marche est véritablement uni.
Sophie Delpont.
Justement, faire bloc, est-ce que ça veut dire que l'Assemblée nationale est une simple chambre d'enregistrement? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre?
Non, il faudra évidemment que quand les réformes arriveront, vous savez, sur les ordonnances, on était sur un projet de loi d'habilitation. Donc là, c'est vrai que les parlementaires ont surtout autorisé le gouvernement à prendre des mesures après avoir dialogué avec les partenaires sociaux. Mais sur d'autres sujets qui vont être, par exemple, sur la loi logement ou d'autres, qui vont arriver sous forme de projet de loi à l'Assemblée nationale, le groupe pourra s'exprimer, enrichir les textes. Et évidemment, il ne s'agit pas simplement d'être là pour les enregistrer, mais évidemment, mais on les soutient.
Vous étiez au Parlement déjà avant, mais vous étiez attaché parlementaire. Et maintenant, vous êtes donc député, élu député
parlementaire. J'étais en cabinet ministériel.
Ah mais... bon, vous n'avez pas été attaché parlementaire?
Non.
J'ai cru que vous étiez attaché parlementaire. Excusez-moi.
Non, je vous en prie.
En tout cas, vous avez été dans cet ancien monde. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous êtes au Parlement, d'être dans le nouveau monde que l'on nous décrit aujourd'hui?
Écoutez,
dans le monde nouveau.
En tout cas, typiquement, le discours de vérité que tient le président de la République sur le fait que des personnes qui viennent d'horizons politiques différents se retrouvent aujourd'hui pour mettre en œuvre des réformes déterminantes pour le pays, on a bien là, effectivement, l'esquisse d'un nouveau monde politique, en tout cas, qui se dessine. Et vraiment, moi, je vois la différence par rapport à ce que j'ai pu aussi observer à d'autres périodes.
C'est quoi la différence?
C'est qu'on n'est plus forcément dans des débats qui sont souvent artificiels. Ceux qu'on qualifie de fainéants, c'est ceux qui encore vraiment essaient de faire ressortir des clivages qui pour beaucoup ne sont plus du tout pertinents, ne sont plus du tout en phase avec ce qu'attendent les Français. Et La République En Marche, on a dépassé ça et on a vraiment réussi à se mettre d'accord sur ce qu'on pensait être vraiment indispensable pour le pays, au-delà des appartenances et des clivages politiques issues du passé.
Une dernière question, Sophie.
Oui, vous êtes aussi président du Conseil national de l'habitat. Oui. Il y a eu donc cet été l'annonce de la baisse de 5 euros sur les APL pour tout le monde, en parallèle de la baisse de l'ISF. Vous disiez qu'il n'y a pas de clivage dans votre groupe, vous êtes d'accord. Comment on justifie en ce moment une telle baisse pour le plus grand nombre ?
C'est quand même pas tout à fait la même chose, parce que la baisse de 5 euros des APL, elle est conséquente à la loi de finances précédente, hein, et pas à celle que nous on a proposée et qu'on va proposer, et qu'il fallait bien mettre en œuvre. Ensuite, la seule alternative aurait été de prendre une loi de finances rectificative, et ça se serait soldé par une augmentation des impôts. Donc ça aurait été là aussi un choix difficile, et qui ne nous semblait pas souhaitable pour les Français. La baisse de l'ISF, effectivement, elle est dans le projet, mais enfin, il y a bien d'autres choses dans ce projet. Il y a notamment beaucoup de mesures pour redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes et populaires de ce pays. Je pense à la suppression de la taxe d'habitation, à la suppression d'un certain nombre de cotisations salariales, ou encore à l'augmentation de minima sociaux comme la prime d'activité ou l'allocation adulte handicapé. Donc, il ne faut pas résumer le projet à la baisse de l'ISF. Ce serait, vous verrez que le projet de loi de finances et le budget qu'on va proposer est bien plus riche que ça.
Aurélien Taché, merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot de la météo, merci. Avec des averses, du vent d'ouest assez fort sur la plupart des régions. Le ciel plus dégagé près de la Méditerranée, mais encore là aussi avec un vent assez fort, du Mistral notamment. Des maximales qui ne vont pas dépasser les 16 à 19 degrés sur la moitié nord cet après-midi. De 19 à 22 dans la moitié sud, jusqu'à 28 degrés sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le littoral de l'Occitanie. Cette édition est terminée, elle a été réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.